Mondial Sport sur RFI. Éric Chorin.
Bonsoir à toutes et à tous. Un dimanche de sport en 30 minutes, c'est dans Mondial Sport. Antoine Grenier m'accompagne pour la partie africaine de l'émission. Valentin Vaner est à la réalisation avec le concours de Laurent Philippot. À la une ce soir, des Reds qui voient rouge et assomment des Citizens bleu pâle 3-1. C'est du foot bien sûr, Liverpool, Manchester City, Anfield, comme si vous y étiez. En France, quand le Classico ne fait plus recette, reste l'Olympico, OLOM, pour mettre le feu au Vélodrome. Et Hugo Moisson dans ce studio pour l'éteindre tout au long de l'émission. En Guinée, Fodé Mansaré a retrouvé la flamme. L'ancien joueur du Sili et de Toulouse va rejouer pour le club guinéen de Flamme Olympique. En rugby, les 31 champions du monde sud-africains ont fait la tournée du pays. Leur trophée en main cette semaine, de Johannesburg jusqu'au Township où est né le capitaine des box, Siya Kolisi. En basket, Tony Parker, célébré par San Antonio. Plus personne ne portera le numéro 9 du français chez les Spurs, avec lequel le joueur a remporté 4 titres NBA. Enfin, en tennis, elles l'ont fait. Les Françaises ont remporté la 3e Fed Cup de leur histoire en Australie. Et pourtant, il y avait la numéro 1 mondiale chez les Australiennes. Mais les Bleues, elles avaient Kiki et Caro.
Mondial Sport sur RFI.
Mais tout de suite, avec vous, Hugo Moissonnier. Bonsoir Hugo.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
On met le cap sur le stade Vélodrome où se déroule le néo-classico rebaptisé Olympico, un match OM-OL, Hugo, que les Marseillais ont pris par le bon bout, mais les Lyonnais sont revenus dans la course. Hein.
Eh oui, la première mi-temps, elle était pour l'OM, la deuxième, elle est plutôt lyonnaise, notamment grâce à cette réduction de l'écart, réduction du score. Moussa Dembélé à la 51e minute, très bien servi par quelqu'un qu'on connaît et qu'on aime bien, un Burkinabé, Bertrand Traoré, retrouvé, qui permet donc à Lyon d'espérer, d'autant que les affaires marseillaises, elles sont continuées à se compliquer dans les minutes qui ont suivi, avec l'expulsion du défenseur espagnol Alvaro. Donc l'OM à 10 contre 11, il reste, 25 minutes à jouer. L'OM qui va tenter de tenir son avantage, avantage acquis avant la pause, grâce à un homme qui avait animé l'avant-match, un certain Dimitri Payet. Il avait allumé Rudy Garcia, son ancien entraîneur à l'OM et actuel entraîneur de Lyon. Il a assumé ses responsabilités, c'était mis une pression supplémentaire. Dimitri Payet, il a assumé un magnifique pénalty à la 18e minute, et puis cette action incroyable à la 39e minute, Payet à la récupération, attaque le rageur. Payet à la construction, une magnifique orientation du jeu extérieur pied droit. Payet à la conclusion, une frappe limpide pour doubler la mise, 2-0 pour Marseille à la pause. Les affaires, on l'a dit, se sont compliquées pour les Olympiens. Ils sont néanmoins toujours devant.
Une ambiance des grands soirs pour ce Garcico, comme on pourrait le rebaptiser. Vous restez dans le studio, Hugo. On va y revenir. Mais tout de suite, on prend la direction de l'Angleterre où avait lieu le vrai choc du jour. Liverpool, Manchester City, le champion d'Europe contre le champion d'Angleterre. Un match qu'a suivi pour nous notre spécialiste du football anglais, l'homme de l'outre-manche, Philippe Auclair. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous et à toutes.
Alors Philippe, ce match, les Reds l'ont emporté 3-1. Ils ont même mené 3-0 après un départ canon. Hein.
Oui, un départ canon un petit peu bizarre dans la mesure où Manchester City avait d'entrée de jeu donné un petit peu le la dans cette rencontre, comme l'a reconnu d'ailleurs Andy Robertson, l'arrière-coach de Liverpool. Mais encore une fois, ce qui a fait la différence, c'est le tranchant des Reds, en tout cas en ce début de rencontre. Et un début de rencontre, je dois le dire Eric, extrêmement controversé. On en parle beaucoup en Angleterre ce soir. Vous avez peut-être vu le but magnifique de Fabinho, cette frappe très sèche avec un ballon qui ne dévie absolument pas dans sa trajectoire, donc la frappe parfaite. Cela dit, à l'origine de cette contre-attaque menée par Sadio Mané sur le côté gauche, il y a malgré tout une main de Trent Alexander-Arnold, non sifflée par l'arbitre.
Justement, justement, Philippe, une partie de nos auditeurs, surtout ceux qui n'ont pas vu le match, se pose cette question. Est-ce que City, en plus d'une sa faiblesse relative sur le terrain face à Liverpool, a été défavorisé par l'arbitrage sur ce pénalty notamment qui aurait pu être accordé pour cette main de Trent Alexander-Arnold?
Il n'a pas été défavorisé par l'arbitrage parce que c'est certainement pas quelque chose que je dirais de Michael Oliver, qui pour moi est le meilleur arbitre britannique du moment. Il a été désavantagé par des interprétations qui divaguent un petit peu, dirons-nous, de différents points du football, notamment celles sur les mains dans la surface. La situation dans laquelle se trouve Trent Alexander-Arnold, qui pour moi fait une main évidente dans la surface, qui, il y a 10 ans, comme il y a 20 ans, comme il y a 30 ans, comme aujourd'hui, aurait dû être mis d'un penalty, on a décidé que finalement, la position de son bras n'était pas non naturelle. Voilà, comme ça, c'est comme ça qu'on va le dire. Et du coup, sur le contre, je crois que c'est 22 secondes plus tard, le ballon échoue dans les pieds de Fabinho, qui décoche une frappe absolument magnifique du pied droit, sur laquelle Claudio Bravo ne peut absolument rien. Mais donc, il y a énormément de controverses ce soir en Angleterre autour de cette décision. Cela dit, sur l'ensemble du match, on ne peut pas dire véritablement que ce succès de Liverpool soit immérité, ne reflète pas la façon d'être et de jouer des deux équipes, mais il y a une vraie interrogation, c'est vrai, autour de ce premier but.
Alors il y a ce premier but, mais il y en a eu deux autres ensuite, un deuxième but dans le premier quart d'heure, un pour Mo Salah, et puis un autre juste après la reprise du match signé cette fois-ci Sadio Mané. Point commun, une tête pour chacun d'entre eux, et ils ont encore marqué leur contre les deux joueurs africains.
Absolument, et j'allais dire, il y a deux points communs, il y a aussi le centre, la qualité de centre, celui d'Andrew Robertson pour Mo Salah, qui est parfaitement dans le timing et sait calculer sa course pour pouvoir, ce qui est extrêmement difficile, ce geste, cette tête de demi-volée en quelque sorte, qu'il place hors de portée de Claudio Bravo, et puis le centre, on va dire, génial, il n'y a pas d'autre mot, de Henderson, pour son ailier Sadio Mané, qui place une tête que également Claudio Bravo ne peut que détourner du bout des doigts. Mais encore une fois, c'est le jeu de Liverpool. Le jeu par les ailes, le jeu par les côtés. Vous avez Robertson d'un côté, vous avez également Henderson de l'autre, et vous avez à la conclusion deux joueurs, Salah et Mané, qui sont, je l'espère, dans la course pour le Ballon d'Or.
On l'espère également, la RFI.
Oui, oui. J'imagine, on l'espère tous. Hein. Et je ne pense pas, même si le vote est maintenant conclu, que les dernières prestations de Sadio Mané auront particulièrement nuit au vote en sa faveur.
Un mot, Philippe, sur les Citizens. Ils étaient bleu pâle ce soir face au réalisme des hommes de Jürgen Klopp.
On a vu la différence au niveau mental, on a vu la différence au niveau des interventions en milieu de terrain. On a vu une équipe de Liverpool qui était au top, même si elle était un petit peu malmenée. En tout début de rencontre, où les Citizens ont fait, ma foi, une belle entame, mais ensuite, le rythme qu'on attendait de Liverpool, il était là. Le tempo était là, les joueurs qu'on attendait être au rendez-vous étaient là. Vous avez parlé de Mohamed Salah, on pourrait parler de Sané, on pourrait parler de Mané, on pourrait parler de Virgil van Dijk, on pourrait parler d'Alexander Arnold, etc. Les joueurs étaient là. Et bleu pâle, peut-être pas, mais en tout cas, l'impression qui se dégage, c'est qu'il y a vraiment la force du destin et derrière les Reds aujourd'hui, pas derrière les Bleus.
Deux questions rapides et deux réponses rapides, Philippe. La première, est-ce que l'on peut dire que c'était l'ambiance des grands soirs à Anfield ce soir ?
Extraordinaire. D'entrée de jeu, je voudrais même dire, avant l'entrée de jeu, vous savez que Jürgen Klopp avait fait quelque chose d'assez étonnant. Il avait demandé aux supporters d'Arsenal, de Liverpool, je vais y arriver, d'arriver avant... bien avant le coup d'envoi. Ils étaient là présents, non pas cinq minutes avant, comme c'est le cas souvent dans les stades anglais, mais une demi-heure avant, le COP était déjà plein. Du coup, il y avait une ambiance tout à fait particulière, que moi j'ai vécu quand Manchester City vient à Anfield, de toute façon, ou d'autres grandes équipes, mais elle était encore rehaussée, parce que vraiment, dans l'esprit, je pense, du manager, comme de ses joueurs, comme du public, ce match était déjà le match aller d'une finale aller-retour pour le titre de champion d'Angleterre. Il la remporte 3-1, c'est énorme.
Alors, parce que justement, Philippe, ça y est, Liverpool va le décrocher, ce titre après lequel il court depuis 30 ans.
Moi, j'y crois, j'y crois franchement, parce que l'année dernière, c'est vrai, ils ont jusqu'à 10 points d'avance, mais un match joué en plus. Ils sont restés en tête, je crois, jusqu'à la 28e journée du championnat, mais c'était pas la même équipe de Liverpool, c'était pas la même équipe de Manchester City non plus. Cette équipe de Liverpool, cette année, vous avez l'impression que, quelles que soient les questions qu'on lui pose, elle a les réponses. Et des réponses parfois inattendues, inédites. Vous avez également des performances, des statistiques absolument extraordinaires qui vont pour défendre ce scénario. Cette équipe de Liverpool n'a perdu qu'un seul match le début de la saison 2018-2019. Cette équipe de Liverpool n'a pas perdu un seul de ses 45 derniers matchs à domicile. Et vous vous dites, vu son état de forme actuel, vu ce qui se passe à Manchester City, alors 9 points ça n'est pas la lune. Il y a deux équipes qui sont à 8 points, il ne faut pas les oublier, en plus Chelsea et Leicester.
Oui.
Mais telle qu'est partie cette équipe de Liverpool, et quand on sait l'importance que peut avoir ce titre de champion d'Angleterre pour les supporters de Liverpool, on se dit encore une fois, c'est la force du destin.
Merci Philippe Auclair pour cet éclairage sur ce match remporté par Liverpool face à Manchester City. 3-1 ce soir. On retourne au championnat de France à notre Olympico Hugo Moissonnier. Score inchangé, 2-1 toujours pour l'Olympique de Marseille. L'avant-match a été pas mal animé ici aussi, hein, du côté de Marseille.
Oui, animé par les déclarations de Dimitri Payet, je vous en parlais. Et puis plus proche du coup d'envoi, animé par le 12e homme marseillais, le public. Très présent hein, ce soir, très présent pour encourager son équipe qui est réduite à 10 contre 11 pour encourager Dimitri Payet qui vient de céder sa place à Valère Germain, très présent pour le pire comme pour le meilleur, ou plutôt pour le meilleur comme pour le pire, hein, ce public marseillais. Il s'est également distingué en caillassant le bus de Lyon, alors je dis le public, quelques supporters, oui, malheureusement, qui se sont distingués de la sorte en caillassant le bus de l'équipe lyonnaise, des vitres cassées, hein, notamment, à déplorer un tweet du président lyonnais Jean-Michel Aulas. Plus jamais ça, également à l'actif du public marseillais. Un record d'affluence, 65 400 personnes dans les travées du Vélodrome et un magnifique tifo pour célébrer les 120 ans de la création du club. À son actif également, une grosse bronca contre son ancien entraîneur, qui est désormais,
tiens,
on l'a dit,
Rudy Garcia,
assis sur le banc de Lyon, Rudy Garcia.
Et Claude Puel, lui, qui est content ce soir, puisque Saint-Etienne s'est imposé 3-2 à Nantes, et ils étaient quasiment sur le podium, sauf que Marseille, là, provisoirement, prend la deuxième place derrière le Paris Saint-Germain. On fera peut-être un dernier détour, hein, de votre côté, Hugo Moissonnier, pour la fin du match. Mais on reste dans l'actualité football pour aller du côté de l'Afrique, de la Guinée. Certains se souviennent de ces presque 300 matchs dans le championnat de France. D'autres gardent en mémoire sa coiffure, hein, si particulière, chacun ses goûts, hein. Ses mèches blondes, si reconnaissables. Hugo Moissonnier, non. Antoine Grenier, bonsoir.
Bonsoir Eric Chouin. Vous parlez de la victoire de Saint-Etienne, vous parlez pas du doublé de Denis Bouanga, le Gabonais.
Et oui,
faut le mentionner.
Il a mis deux buts ce soir, il est en forme, hein, avec les Verts. Denis Bouanga, merci de m'avoir rappelé tout cela, Antoine, même si vous avez moins de mèches blondes que le joueur qu'on va évoquer. Les derniers préfèrent se rappeler donc son aisance technique. Fodé Mansaré, en tout cas, a marqué le football guinéen.
Et il continue de le faire en reprenant du service. Eric, après 3 ans de retraite, l'attaquant a décidé de redevenir joueur dans son club de Flamme Olympique, promu en Ligue 1 guinéenne, créé à Conakry en 2004. Flamme Olympique, dont le président n'est autre que Fodé Mansaré lui-même, connaît sa deuxième expérience dans l'élite après la saison 2014-2015. Assez joueuse, hein, cette équipe, dans ce début d'exercice. Eh ben, la jeune formation peut compter sur l'expérience de son président. Elle va compter maintenant sur lui, sur le terrain. Éloigné depuis 2016 du football, l'ancien international guinéen reconverti dans les affaires a décidé de reprendre du service. Tchernoya Diallo est allé à sa rencontre.
Stade annexe du 28 septembre. En prévision du choc de la troisième journée de Ligue 1 contre le Hafia, le promu Flamme Olympique se prépare dans le calme. Au loin, on aperçoit une silhouette bien connue du football guinéen, celle de Fodé Mansaré, lié aux 48 sélections avec le Sidi National qui va réchausser les crampons.
Quand je suis là, je m'entraîne souvent avec eux. Le seul problème, c'est la signature qui a changé tout. Mais sinon, c'est mon équipe. Je suis toujours avec eux en tant que président du club. Donc là, j'ai signé en tant que joueur, présent joueur.
Idée originale, en effet, pour l'ancien de Montpellier de Toulouse, qui va apporter toute son expérience et toute son aura pour un championnat en manque de star locale. Touré Abraham Lincoln a le redoutable privilège de porter le brassard de Flamme cette saison.
Il nous apporte son expérience, son vécu de l'Europe, du haut niveau. Donc nous, ça nous fait beaucoup de bien qu'il soit parmi nous dans le groupe, quoi.
Plus pour partager l'expérience donc que d'apporter sportivement pour le président joueur. Du haut de ses 38 ans, Fodé Mansaré n'a plus ses coups de rein des années 2000. D'autant qu'il faudra gérer son emploi temps en fonction des tâches tout au long de la journée.
Je balance, quand je suis pas sur le terrain, tout ça, je suis le président du club. Mais quand je suis sur le terrain, je suis le joueur comme mes joueurs.
Rapatrier les anciens internationaux, le a fait en 2005 avec Salam Sow et l'Escalum en 2013 avec Sambegu Bangoura notamment, l'ont déjà tenté. Une expérience qui a ramené l'engouement dans le championnat, mais qui n'a pas produit des résultats probants. Et le public en est bien conscient et n'attend pas plus que ça de ce qu'on pourrait qualifier de retraite exotique.
On dit que le foot, c'est pour le jeune. Pour moi, je ne vais pas mettre l'abnégation sur le cas de Mansaré. Bon, je trouve ça quand même c'est bien.
Là, plus que là, je joue dans le championnat. Il a beaucoup fait pour l'équipe nationale et puis il a joué dans les grands championnats du monde. Ouais, donc s'il vient ici pour jouer, c'est juste pour encourager les jeunes, en fait.
Pourtant, Fodé Mansaré ne compte pas s'arrêter là. D'autres anciens du Sili, comme le magicien Pascal Feindouno, sont en approche et il espère bien réussir quelques coups avant la fin de l'enregistrement des licences en ce début de saison.
Pascal, les Cabra, les Calabal, tout ça là, les Cafou, c'est des gens qui sont prêts à revenir pour jouer dans leur championnat.
Avec ses 282 matchs en professionnel entre Montpellier et Toulouse, Fodé Mansaré espère aider le promu Flamme Olympique qui a engrangé 3 points en 2 journées de championnat à se maintenir en Ligue 1 et plus si affinité. Tchernoya Diallo, Conakry, RFI.
On change de ballon, en tout cas de forme de ballon. Il va être ovale maintenant avec du rugby à 15. Et Antoine, ce retour sur une semaine d'euphorie en Afrique du Sud.
Le week-end dernier, les Springboks soulevaient la 3e Coupe du Monde de rugby de leur histoire. C'était au Japon. Carton plein pour les Sud-Africains. 3 finales, 3 sacles. Devenus les héros inattendus d'un pays divisé, toujours miné par les questions raciales. Les Boks ont fait un retour triomphal, c'est le mot, sur leur terre. Cette Coupe du Monde, c'est une occasion pour le pays de se rassembler. Un bol d'air frais pour toute la nation arc-en-ciel qui a pâti ces derniers mois d'un regain de criminalité et du déclin économique. Noé Auchet-Baudin a suivi les 31 champions du monde tout au long de leur semaine de Johannesburg jusqu'à aujourd'hui au township natal de leur capitaine, l'emblématique Siya Kolisi.
Dans le hall des arrivées de l'aéroport de Johannesburg, difficile de se déplacer au milieu de la foule compacte venue accueillir des champions du monde. Difficile aussi pour les milliers de Sud-Africains comme Asonde de trouver les mots pour exprimer leur joie.
Ah oui, c'est trop, quelle époque on vit, on a la chance d'être là en Afrique du Sud, c'est magnifique, je ne peux pas le croire.
Au moment de l'arrivée du capitaine Siya Kolisi, la coupe à la main, l'atmosphère est électrique.
Je suis trop heureuse. Ils ont réussi à rallier toute la nation derrière eux. Le pays ne fait qu'un. C'est tout ce que nous voulons, d'être ensemble, rassemblés en une seule nation.
Plus que la ferveur, c'est en effet l'union des supporters qui frappe l'œil. Si l'Afrique du Sud est l'un des pays les plus divisés au monde, les Springboks ont réussi à rassembler ses habitants, au moins pour un court moment, selon Asande Nkosi.
Dans l'histoire de l'Afrique du Sud, le sport a toujours joué un rôle important pour nous rapprocher. Je regardais le match avec ma famille à Soweto. Il y avait des Noirs, des Blancs, c'était magnifique. Notre slogan, c'est « Plus fort ensemble ». Ça devrait d'ailleurs devenir le slogan du pays tout entier.
À côté d'elle, on retrouve Sean, un supporter sud-africain, un supporter blanc sud-africain, qui lui aussi s'enthousiasme.
Pour moi, aujourd'hui, c'est l'Afrique du Sud dont j'ai toujours rêvé. Voilà ce que l'on peut faire lorsque nous sommes ensemble, ce que l'on peut voir après une victoire. Et regardez tous ces gens ensemble, différentes couleurs de peau, différentes classes sociales. C'est ça la vraie victoire de l'Afrique du Sud.
Autrefois, sport uniquement blanc, le rugby fait sa mue en Afrique du Sud, trop lentement pour certains qui se plaignent du faible nombre de joueurs noirs, 12 sur les 31 sélectionnés. Mais les progrès sont en fait plus profonds et sont visibles dans le township de Soweto, en lisière de Johannesburg, ancien bastion de Nelson Mandela, historiquement très hostile aux Springboks. Voici aujourd'hui le plus grand township d'Afrique du Sud qui célèbre les rugbymen au passage de leur bus. Je ne sais pas quoi dire, je n'ai pas les mots. Ils me rendent tellement fier. Tsepo a 77 ans et était l'un des rares noirs à jouer au rugby dans les années 1960.
Avant, on avait l'habitude de toujours être pour l'adversaire des Springboks à cause de l'apartheid, mais aujourd'hui, je préfère soutenir les Boks. J'ai regardé tous les matchs de la Coupe du Monde. De plus en plus de gens s'intéressent au rugby. C'est plus comme avant. Il y a des noirs et des blancs, des métis, même verts et bleus. Tout le monde suit le rugby aujourd'hui.
Dans le township, on est davantage football que rugby. La preuve, on compte seulement 3 clubs de ballon ovale pour plus d'un million et demi de personnes à Soweto. Pankululi, il est temps de s'y mettre.
Ce titre n'est pas une fin en soi, c'est le début d'une nouvelle époque pour nous. Nous avons beaucoup de jeunes noirs talentueux qui jouent au rugby. Sia nous montre la voie.
En 1995 et 2007, l'euphorie était vite retombée. Mais en ce début novembre, les Sud-Africains s'accordent à dire que 2019 sera le véritable tournant, avec comme symbole Siya Kolisi, premier capitaine noir de l'histoire, propulsé icône nationale et même nouveau Mandela, selon certains.
On connaît beaucoup de défis en Afrique du Sud, mais on arrive toujours à se surpasser, et en particulier quand on se rassemble tous ensemble. Les gens disent qu'ils vont prendre exemple sur nous, mais nous, nous sommes inspirés des Sud-Africains pour gagner.
Colissi, au-delà de ses qualités de troisième lignelle et de son charisme, est le parfait produit de la nation arc-en-ciel. Une enfance dans un township, comme la plupart des Noirs sud-africains, en l'occurrence le modeste township de Zwide, près de Port-Elizabeth. Avec ses 30 coéquipiers, le champion du monde est revenu sur ses terres, le trophée Webb Ellis à la main. À Bongilé, à 19 ans.
Sia a grandi ici, dans ces rues. Il nous donne le courage de rêver en grand et de croire en sa bonne étoile. On est super fiers de lui, car il nous représente, nous, les habitants des townships, et que tous les rêves sont permis.
En tête du bus, Colissi est passé devant son école primaire et le stade de ses débuts où s'était réuni son tout premier entraîneur. La province du Cap-Oriental fournit de nombreux autres talents aux Springboks, comme le meilleur marqueur de la compétition, Makazole Mapimpi, et l'entraîneur, Rassi Erasmus. Noé Ochebaudin, Port Elizabeth, RFI.
Eh bien, c'était un bien beau reportage en Afrique du Sud de Noé Ochebaudin. On partage la voix, la joie des Sud-Africains. Antoine, on va refermer cette page africaine avec du cyclisme et un départ, hein, celui du Tour du Sénégal qui a été donné aujourd'hui à Kolda, en Haute-Casamance. Et c'est un Allemand qui a coupé la ligne, le premier.
Thomas Liernert a remporté la première étape de cette 18e édition au terme des 185 km courus entre Kolda et Ziguinchor. Carton plein, d'ailleurs, pour Liernert qui endosse du même coup le maillot jaune de leader du général, le maillot vert du classement par points et le maillot blanc de meilleur jeune. Comme ça, c'est fait. Le premier Africain finit cinquième, c'est le Rwandais Didier Munayeza. Le Rwanda avec trois coureurs dans les 10 premiers au général, mais Félix Sempoma, le directeur sportif rwandais, espérait mieux.
La première étape, ça a été très long. C'est une étape de 185 km sous le chalet. C'est vraiment difficile. Mes garçons, ils ont fait un effort pour se glisser dans l'échappée. Et puis ça a été. On a été à l'échappée avec des garçons. Et malheureusement, on n'a pas gagné une étape. C'était notre objectif aujourd'hui, parce que mon équipe est très jeune. On est en nombre de 5, les 4 sont des jeunes. Ça me fait du plaisir de rouler avec les jeunes comme ça. L'objectif, c'est toujours de l'emporter une étape qui peut nous amener à l'emporter le tour. Même si ça parlait comme ça, on va faire des échappées comme on l'a fait aujourd'hui. On va voir ce qui va se donner, mais le chemin est très long, est toujours très long parce qu'on est à la première étape, on a toujours des choses à faire.
Félix Sempoma, directeur sportif de l'équipe du Rwanda au micro de Babacar Fall. Deuxième étape ce lundi pour ce Tour du Sénégal. En sens inverse, cette fois-ci on va de Ziguinchor jusqu'à Kolda.
Merci Antoine Grenier. Ne partez pas Antoine, Faudemand Sarré va rechausser les crampons, vous nous avez dit. Tony Parker, lui, a définitivement remisé ses baskets au placard il y a quelques mois pour se consacrer totalement à ses nouvelles vies. Il y en a plusieurs, dont celle de président de l'ASVEL Lyon-Villeurbanne. Mais le souvenir du meneur de jeu français est encore très vivace à San Antonio. La ville dont il a porté les couleurs durant 17 saisons a décidé de le célébrer tout le week-end. Et demain, le maillot de Tipeee, le numéro 9, sera lui aussi retiré après la rencontre à domicile de son ancienne équipe, les Spurs, contre les Grizzlies de Memphis. Pour en parler avec nous, notre correspondant aux États-Unis, Michael D'Acosta. Bonsoir, Michael.
Bonsoir.
Tipeee célébré à San Antonio depuis hier, avant le retrait de son maillot demain par sa franchise de cœur, celle des Spurs. C'est une première pour un Français dans une ligue sportive professionnelle aux États-Unis.
Oui, c'est une première et c'est également une tradition dans les sports américains de célébrer, de rendre hommage aux sportifs qui ont marqué une franchise, une ligue, une discipline, un sport, comme Tipeee fait partie de cette classe d'athlètes. Alors les célébrations ont démarré depuis hier, alors que le maire de San Antonio, Ron Nirenberg, a décidé un peu plus tôt cette semaine de déclarer ce samedi 9 novembre, un numéro pas vraiment choisi par hasard car c'était le numéro que Tony Parker portait aux Spurs, le numéro 9, comme étant le Tony Parker Day. Alors il y a eu des célébrations un peu partout dans la ville et Tipeee a été présent à plusieurs événements publics, dans des centres commerciaux, dans des centres sociaux, etc. avant la grande cérémonie de demain où il y aura le retrait de son maillot à la fin de la rencontre entre les Spurs et les Memphis Grizzlies. Alors son maillot et son mythique numéro 9 sont retirés dans une cérémonie d'hommage qui lui sera rendue au meneur français fraîchement retraité. Et c'est bien la première fois qu'un sportif tricolore est célébré de cette manière dans un sport US.
Et pour en arriver là, Parker a marqué l'histoire de la franchise texane. Michael, petit retour sur la carrière de Tipeee en chiffres.
Oui, il y a plusieurs chiffres qu'on peut donner qui marquent vraiment la carrière de Tony Parker. Il a gagné 4 fois le titre de champion. Il a été une fois MVP, c'est-à-dire meilleur joueur des finales NBA en 2007. C'était le premier joueur européen à y arriver, avant Dirk Nowitzki qui a réussi aussi ce fait d'armes en 2011. C'est le quatrième meilleur scoreur de l'histoire de la franchise avec 18 943 points. Il est environ dans les 40 plus grands scoreurs de l'histoire de l'NBA avec ce total-là. C'est le plus jeune joueur de l'histoire à avoir été titularisé dans cette franchise à l'âge de 19 ans. Sans oublier les moments magiques avec le trio Manu Ginobili et Tim Duncan, l'Argentin et l'autre joueur natif des îles Vierges américaines, chapeauté par le coach mythique Greg Popovich. Et bien sûr, sans oublier, il y a quelques années en arrière, une rue Tony Parker, que le même maire Ron Nirenberg, qui a décidé de ce Tony Parker Day, avait donné le nom d'une rue de San Antonio au nom du célèbre basketteur français.
Ça, c'est quelque chose. Et au-delà de ces titres et de ces statistiques, quelle a été l'influence de Tony Parker en NBA et dans le jeu ?
Il y a beaucoup d'influence, il a beaucoup marqué le basket. Alors tout d'abord sur le terrain, par ses actions de classe et son geste préféré, qu'il a en partie inventé, le flotteur, qui est un lay-up, un tir en cloche près du panier, qui a été repris par quasiment tous les joueurs de la Ligue. Et en parlant avec plusieurs joueurs, on sent un respect énorme de la part de ses anciens coéquipiers, de ses anciens adversaires, par certaines superstars, par exemple, dont Chris Paul, le meneur d'Oklahoma City et de l'équipe des États-Unis, qui a toujours avoué que Tipeee était son joueur préféré. Alors il a également ouvert la voie à des dizaines de joueurs français et européens, et son rôle de pionnier du basket tricolore aux USA est reconnu de tous, de Nicolas Batum en passant par Rudy Gobert, lui qui est vu comme un exemple de professionnalisme et de compétitivité. Entre autres, il a permis à changer l'image des joueurs européens NBA, eux qui étaient vus encore il y a 15 ou 20 ans par le passé comme des joueurs un petit peu trop soft, pas vraiment athlétiques, pas vraiment impactant le jeu américain qui est quand même très porté sur le physique.
Alors Tipeee exemplaire en NBA et avec l'équipe de France, hein, dont il a porté 181 fois le maillot avec en poids d'orgue le titre champion d'Europe en 2013. Mais revenons aux États-Unis. La suite logique pour Parker, ce serait son entrée au Hall of Fame, le panthéon du basket.
Oui, c'est la prochaine étape. Alors généralement, le processus est un petit peu long, il est difficile d'y être intégré. Alors, il faut passer devant plusieurs commissions qui votent en votre faveur ou pas, mais Tony Parker aurait la possibilité d'y être intégré dès l'an prochain, ce qui est un fait très très rare, car en moyenne, un joueur doit attendre entre 3 et 6 ans pour y être intégré, 3 et 6 ans après la fin de sa carrière. Alors la cote de Tony Parker est exceptionnelle, et cela le prouve une fois de plus. Et la NBA, les Spurs, poussent pour que tout se fasse dès l'an prochain. Il y a des grandes chances que cela se passe. Réponse normalement au mois de décembre ou au mois de janvier. Alors Tony Parker serait encore plus érigé au rang de légende du basket en intégrant ce Hall of Fame, le Panthéon à Springfield dans le Massachusetts, et serait aux côtés d'autres légendes du jeu comme Michael Jordan, Karim Abdul-Jabbar et Shaquille O'Neal. Donc c'est une affaire à suivre dans les prochaines semaines.
La suite au prochain numéro, Michael Dacosta à New York. Et puis celle-là, on ne l'avait pas vu venir. La victoire de l'équipe de France féminine de tennis en Fed Cup en Australie. Elles l'ont emporté 3-2. Les Françaises, on ne l'a pas vu venir parce qu'en face, il y avait quand même la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty dans le rang de l'équipe australienne. Mais Ashleigh Barty est tombée sous les coups de Kristina Mladenovic aujourd'hui en 3 manches, 2-6, 6-4. 7-6. Dans la foulée, les Australiennes ont égalisé à 2 partout, mais le double a été décisif. Kristina Mladenovic associée à Caroline Garcia, une paire qu'on n'avait plus vue depuis la finale de la Coupe Davis, de la Fed Cup, pardon, il y a 3 ans, et cette défaite des Françaises en finale face aux Tchèques. Caroline Garcia, et la brouille est terminée, elle nous l'a confié, elle était très heureuse aujourd'hui.
Je crois que j'ai un peu de mal à réaliser parce que en 36 heures, je suis passée par pas mal d'émotions. Mais franchement, on avait dit qu'on allait la gagner tous ensemble, cette coupe. C'est ce qu'on a fait toute l'année. On a apporté des points. Aujourd'hui, c'est Kristina qui en apporte 3. On a gagné au double décisif. De toute façon, j'ai envie de dire, c'était écrit qu'on allait gagner au double décisif, même si on aurait voulu gagner à 3 et éviter quelques sueurs froides. C'était comme ça. Et il y a 3 ans, on avait perdu le double décisif. Et cette année, punaise, mais on était montés sur des ressorts, quoi.
Montée sur des ressorts, Caroline Garcia et Kristina Mladenovic qui ont apporté le point décisif de la victoire des Françaises en finale de la Fed Cup, le football et ce match OM-OL qui n'est pas terminé. Hugo Massonnier, on joue les dernières secondes, toujours 2-1 pour l'OM.
Oui, 2-1 pour l'OM, ça va siffler dans quelques secondes, le ballon dans les bras de Steve Mandanda. L'OM qui... c'est fini.
C'est fini, ça y est,
l'OM
c'est fini.
Qui s'impose 2-1, qui prend la deuxième place du classement. Très bonne opération des Olympiens qui ont pris les devants en première période grâce à Dimitri Payet, auteur d'un doublé. Ça s'est corsé en seconde avec la réduction de l'écart signé Moussa Dembélé sur un centre de Bertrand Traoré. L'OM réduit à 10 ensuite, mais qui a bien résisté aux assauts lyonnais. L'OM, deuxième de Ligue 1 ce soir.
Merci Hugo Moissonnier. Merci aussi à Valentin Vanner et Laurent Philippot qui sont derrière la vitre du studio 31 pour la réalisation de cette émission. Bonsoir à tous.
Le débat africain.